tous. Journée spéciale émancipation générale sur France Culture. À l'occasion de la rentrée des classes et au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, faut-il repenser la laïcité à l'école ? Invité, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, le philosophe Vincent Peillon et celle qui préside le Conseil des sages sur la laïcité, Dominique Schnapper. Mais d'abord, comment s'est passé votre premier week-end de confinement ? Avez-vous refait votre stock de livres avant la fermeture des librairies ? La grande table reste ouverte pour vous conseiller, pour partager des envies, des idées, pour donner la parole à tous les secteurs de la culture. Goncourt, Médicis, Renaudot ou encore Wepler, il était et il reste le grand favori des prix littéraires, dont la remise a été suspendue en solidarité avec les librairies. Oulipien dans l'âme, éclectique dans l'œuvre, Hervé Le Tellier, auteur de L'Anomalie chez Gallimard, est notre premier invité.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
En Belgique, les librairies resteront donc ouvertes, classées comme commerce essentiel. Pas en France, patrie des écrivains, nation littéraire, dit-on souvent. Vous avez un peu mal à votre plume quand vous entendez ça ?
Vive les Belges. Vive les Belges. En France, restent ouverts les commerces de tabac et de jeux à gratter. Je trouve dommage que, alors qu'on dispose désormais de masques, qu'on peut pas dire qu'on manipule les livres, qu'on manipule comme on manipule les légumes, qu'il y a du gel à tout l'entrée, toutes les librairies. C'est dommage qu'on ferme les librairies pour les auteurs, pour les lecteurs, pour les libraires. C'est dommage pour tout le monde.
Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est non essentiel dans un moment comme celui-là pour vous, Hervé Le Tellier?
Je ne sais pas. Je pense que c'est dommage de confiner les gens devant des écrans. Je pense que c'est le risque qu'on va avoir. C'est un moment, on pourrait presque dire d'opportunité pour certains de continuer à lire ou de se remettre à lire. Et on ne leur offre pas la possibilité de venir dans des librairies, choisir des livres. Je trouve ça dommage.
Il y a quelque chose qui relèverait un peu du contresens. On a le sentiment aussi par rapport peut-être aux envies, aux besoins, même si les contraintes sanitaires sont là et qu'on les comprend. Le résultat, c'est que les grandes surfaces ne pourront pas non plus vendre de livres, de bandes dessinées ou de disques pour éviter les distorsions de concurrence. Or, pour beaucoup, il n'y a pas une librairie, même indépendante, à quelques kilomètres de chez eux. C'est aussi la possibilité pour chacun, en fonction de là où il habite, de ses moyens, de ses besoins, de se ravitailler en livre, cet objet si précieux. Bibliothèque, librairie, quelle est votre relation à vous avec ces lieux ? Quelle relation vous avez tissée avec les années ?
Je vais très peu en bibliothèque, ça c'est vrai.
Vous n'y alliez pas avant non plus, même étudiant ?
Non, assez peu. Enfin si, j'y allais quand j'étais étudiant, parce que les livres des matières que j'étudiais, les mathématiques, étaient des livres assez coûteux et on trouvait beaucoup plus de choses dans les bibliothèques universitaires que dans les librairies spécialisées. En revanche, c'est vrai qu'assez vite, j'ai eu une relation avec les livres qui est une relation, j'oserais pas dire de possession, mais je les voulais disponibles. Et j'avais du mal à l'idée de me séparer d'un livre que j'avais aimé, je le voulais chez moi. Ce qui veut dire que forcément, je l'achetais. Il était disposé sur une bibliothèque, j'achetais beaucoup en occasion, c'est vrai, pour des raisons de budget, mais c'était quand même une relation il fallait que le livre soit près de moi, c'est une nécessité.
Ça, vous l'avez gardé ?
Oui, ça, je l'ai gardé. Ça pose même des problèmes au bout d'un moment dans les déménagements, mais on finit par l'assumer.
Quand vous allez dans une librairie ou dans une bibliothèque, d'ailleurs, vous aimez être conseillé sur les lectures, sur vos lectures. Vous savez toujours pertinemment ce que vous voulez.
Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est dommage de fermer des librairies. C'est qu'on ne peut pas éviter l'avis du libraire. Il y a en librairie un hyper choix qui est très, évidemment très profitable au lecteur de pouvoir rentrer dans une librairie, de voir 10 000, 20 000 ouvrages tous différents. Le libraire est là pour apporter une expertise qui souvent d'ailleurs est double, c'est-à-dire que non seulement il connaît ses propres goûts, mais il connaît les goûts de son lecteur, de son client, et il est capable d'ajuster en permanence son propre goût à celui de celui qu'il a devant lui. Donc c'est dommage de perdre ça. J'ai entendu Bruno Le Maire dire une phrase, je ne veux pas inventer ce qu'a dit Bruno Le Maire, mais en nature ou en substance, c'était « il est temps que les libraires passent à l'ère du... » C'est peut-être l'occasion pour les libraires de passer à l'ère du numérique. Mais je me demande depuis combien de temps il n'a pas lu un livre, parce que la réalité de la lecture, c'est on rentre dans une librairie et on regarde tout ce qui existe et on demande conseil. C'est ce qui se passe en général pour 80% des gens, et c'est comme ça que ça doit se passer.
En attendant, une partie des jurys des prix littéraires ont choisi, Hervé Letellier, de se montrer solidaire en suspendant l'annonce des lauréats. On vient quand même d'apprendre que le prix Fémina a été remis à Serge Joncourt. Ça, c'est le premier qui a été annoncé aujourd'hui. Mais le Goncourt, notamment, a choisi de repousser l'annonce de son lauréat. C'est pas très bon pour vos nerfs, ça, Hervé Letellier, on l'imagine, puisque vous êtes sur la liste d'au moins 4 grands prix dans la dernière sélection. Mais c'est un geste élégant pour le secteur des librairies indépendantes. Et c'est un geste aussi élégant pour les lecteurs. Il faut rappeler à quoi ça sert et qu'est-ce que ça change dans la vie d'un homme, un Goncourt. Qu'est-ce que vous pensez que ça va changer dans la vôtre? Dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un livre?
D'abord, c'est un futur dont je ne suis pas du tout certain. Donc on est 4. Je pense que pour n'importe quelle personne qui reçoit un grand prix, le Goncourt, le Médicis, le Renaudot, etc. Ça change forcément le nombre de lecteurs qu'on va avoir. Et pour un auteur qui a comme vocation à être lu, et qui n'écrit pas pour lui, mais qui écrit pour des lecteurs, évidemment, multiplié par 2, par 5, par 10, par 100, le nombre de ses lecteurs, c'est un enjeu incroyable. Et la visibilité nationale, mais aussi internationale du livre a des conséquences sur, non pas son écriture, non pas ses propres choix d'écriture future, mais ça a des conséquences très concrètes dans sa vie quotidienne, évidemment.
Oui, c'est le cas pour tous les prix et c'est le cas aussi pour un prix Vepler qui devait être annoncé aujourd'hui. Ça permet de mettre en avant dans les librairies, notamment, avec des bandeaux aussi, et la parole des libraires, des livres qui sont peut-être passés un peu inaperçus, parce que dans une rentrée, on le sait, à peu près 500 sorties chaque année. Pas facile pour un livre d'exister. En attendant, là où le click and collect est possible, nous vous recommandons de commander L'Anomalie. C'est le nouveau roman d'Hervé de Letellier, notre invité. Un roman drôlement bien écrit, truffé de clins d'œil et efficace, comme on dit. Efficace, ça veut dire qu'on a envie de tourner les pages, on a envie de savoir ce qui s'y passe, on a envie de savoir ce qui s'y joue. On suit dans ce roman une dizaine de personnages à qui le sort va réserver un bien étrange destin. Ils ont en commun d'avoir pris le même vol. On est le 10 mars 2021. Le vol Boeing Air France qui relie Paris et New York atterrit après de fortes turbulences où chacun a cru mourir. 3 mois plus tard, en juin 2021, le même avion avec à son bord les mêmes 243 passagers réchappe aux mêmes intempéries avant d'être invité par les autorités américaines à atterrir sur le tarmac d'une base militaire. Qu'est-ce qu'une anomalie pour vous, Hervé Letellier?
C'est le fait que le même avion, effectivement, surgisse dans le ciel. C'est-à-dire, non seulement c'est le même avion, parce qu'après tout, le même avion se pose tout le temps, puisque ce sont des vols quotidiens, mais c'est le même avion avec les mêmes passagers, avec les mêmes personnels de bord. Et donc, on a affaire à une, ce qu'on peut appeler une duplication de l'avion. L'avion se pose donc 2 fois, avec lorsqu'il se pose en juin, la totalité de ceux qui sont à son bord sont déjà sur la Terre, à avoir une vie depuis mars. Et donc chacun de ces individus est confronté à son propre double. Imaginez que vous prenez cet avion, vous avez une Olivia Jesbert qui est déjà chez vous avec vos enfants, votre compagnon. Enfin, ça change un peu la donne en termes de vie quotidienne. Vous voyez, si vous débarquez chez vous et que tout le monde est là sans vous attendre d'ailleurs. Évidemment, il y a des questions qui se posent. Moi, j'avais envie d'avoir beaucoup de personnages. D'abord parce que depuis longtemps, j'ai envie de faire un livre qui soit dans différents genres et les personnages que j'avais étaient tous très typés, très incarnés dans des situations très précises. J'avais un tueur à gages, j'avais une petite fille de 6-7 ans, j'avais une avocate américaine, un écrivain français un peu désespéré. Donc j'avais tous ces personnages à manipuler et chacun d'entre eux était dans un genre littéraire différent. Donc ça m'amusait de traiter cette question du genre à travers un roman très très, on dit choral, mais c'est pas mon terme préféré. Pour moi c'est plutôt un roman avec beaucoup de personnages. À la limite j'aurais pu mettre un roman avec un S pour dire qu'il y avait beaucoup de romans dans le roman. Et cette question du nombre de personnages me permettait de traiter toutes les situations possibles dans cette situation de duplication. C'est-à-dire, il y avait plein d'options possibles. La personne qui tombe malade, la personne qui tombe enceinte, la personne qui meurt, la personne qui... voilà.
Ah, vous n'en avez pas retenu 243 comme passager sur le vol?
Non, c'est une sorte de générosité par rapport au lecteur.
Il y a une dizaine de personnages, 12 peut-être.
À peu près, ouais.
Et à chacun, vous accordez une place. C'est-à-dire que vous attachez vraiment à comprendre quelle est leur vie, quelle était leur vie et quelle pourrait être leur vie, surtout s'ils sont désormais munis, équipés, comme vous le dites, d'un double. Est-ce que vous pensez qu'il existe quelque part, peut-être, un double de vous?
Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Je voulais proposer à des lecteurs une expérience de réflexion, c'est-à-dire se dire, voilà, et si ? Je me posais assez peu la question par rapport à moi-même. Je pense que si...
Vous ne vous la posez pas quand même.
À la fois, on se la pose tout le temps, ouais. Évidemment, parce que à chaque fois qu'on se précipite dans un personnage pour écrire, on se dit, et moi, comment je réagirais ? Et simultanément, la vraie logique du personnage, c'est pas la vôtre. Et donc, il faut à la fois pouvoir répondre à la question, comment moi je réagirais, et pouvoir répondre à une question tout à fait différente, c'est comment le personnage réagirait. Ah. Et c'est pas du tout nous. Donc, il faut répondre à ces deux questions simultanément. Évidemment, qu'on se pose quand on lit le livre et quand on l'écrit, on se pose la même question, c'est comment moi je réagirais à ça. Je pense que la question essentielle qui se posera à moi n'est pas d'ordre matériel. Donc les questions de type partager ma chambre, partager mon appartement, c'est très secondaire. Les vraies questions, ça serait, il y a des gens que j'aime, est-ce que je suis capable ou non de me sacrifier pour mon double, faire que le bonheur existe au moins pour deux d'entre eux et pas pour trois, parce que pour trois, c'est pas possible. Ou est-ce que je serais prêt à me battre? Est-ce que je serais prêt à aller jusqu'au meurtre, comme l'un d'entre eux le fait? Est-ce que je serais capable de résister à la pression qui est d'être en concurrence avec un autre à un point incroyable, puisque l'autre, c'est vous? C'est très différent d'être en concurrence avec quelqu'un dans une relation amoureuse, par exemple, quand l'autre est très différent. Il suffit d'être un peu plus soi pour finalement reconquérir la personne ou la perdre, mais au moins, on sait que c'est nous-mêmes qui la conquérons. Oh. Si il faut être confronté à soi-même, le débat du comment être encore plus soi que l'autre est assez complexe.
Pas évident.
Non, pas évident.
Votre double, un peu raté dans le livre, dans le roman, c'est l'écrivain, forcément.
C'est pas tout à fait moi, c'est un mélange.
Non, non. Bon, deux. Alors, est-ce qu'il y a une musile dedans ?
Alors, non, il n'y a pas...
Il s'appelle Victor Misel.
C'est vrai que c'est un peu l'homme sans qualité, évidemment, auquel on pense. Mais en fait, j'ai mis 4 ou 5 personnes dans le chaqueur.
Vous avez bien secoué. Hein.
Et j'ai mis Édouard Levé, qui était, voilà, dont j'aime beaucoup l'œuvre, et qui a failli, comme on dit, être un ami, puisqu'il s'est suicidé avant qu'on se connaisse bien. J'ai mis un autre ami qui s'appelle Bernard Hoffner, qui est un traducteur, qui est disparu il n'y a pas longtemps. Et j'ai mis 2 personnes vivantes, que je ne citerai pas, qui sont à l'intérieur. Et avec tout ça, j'ai obtenu un personnage d'écrivain qui est double, c'est-à-dire il y a un personnage un peu, disons, dépressif, disons, noir, qui est mon premier Misel, et j'ai un deuxième Misel qui est dégagé de la noirceur et dégagé de l'obscurité pour devenir une sorte de personnage, un Ludion, plutôt facétieux, plutôt... distant avec le monde et qui a un rapport presque, je dirais, stoïcien avec tout ce à quoi il est confronté, puisque son double a écrit un livre qui a connu un succès quasiment planétaire, d'autant plus qu'il est renforcé par le fait qu'on apprend qu'il est dans cet avion. Lui, par rapport à tout ça, il ne comprend pas, et tout ce qu'il peut faire, c'est essayer d'être encore plus léger qu'il n'en a jamais été. Et j'aime bien cette idée qu'il a une seconde chance.
Et alors, il va finir, en tout cas le premier, par se suicider. On est en mars 2021, juste après le vol, pas le double qui réussit, laissant ce livre, L'Anomalie, c'est son titre, ce livre qui va très bien marcher, là où les précédents étaient plutôt des galères hein, pour lui, on part rencontrer un franc succès. Et ce livre-là, il est plein d'aphorismes que Le Tellier, l'écrivain, met en exergue de chacune de ses parties. Aucun auteur n'écrit le livre du lecteur, aucun lecteur ne lit le livre de l'auteur, dit, écrit Victor Misel dans votre roman, Hervé Le Tellier. Le point final, à la limite, peut être leur point commun. Est-ce que vous pensez à vos lecteurs quand vous écrivez ?
Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est une phrase destinée aux lecteurs. Et d'ailleurs, il ne faut surtout pas aller voir la fin du livre, mais il n'y a pas de point final. Ce que je trouve une nécessité par rapport à la nature du livre lui-même. Non, je pense que quand Misel, ce personnage, écrit cette idée de la distanciation entre ce que peut lire un lecteur et ce qu'a voulu écrire un auteur, je crois vraiment ça. Je pense toujours à un petit livre d'Italo Calvino qui n'a pas été publié en France, et c'est dommage, qui est une réponse à un critique qui avait écrit un article sur son livre « Si par une nuit d'hiver un voyageur ». et qui explique à Calvino son propre livre. Et Calvino lit la critique et dit, mais ce lecteur a raison, c'est exactement ce livre-là que j'ai écrit et pas celui que je croyais avoir écrit. Et il écrit un deuxième livre d'ailleurs, qui s'appelle « Si par une nuit d'hiver un narrateur », et qui est une réponse un peu longue à ce critique, qui dit qu'effectivement, la lecture de ce critique l'a amené à avoir sur son propre livre une réflexion très différente, ce qui fait que, en fait, il n'a pas écrit le livre qu'il voulait écrire, c'est le lecteur qui a lu le bon livre et pas lui qui a écrit le bon. Et je trouve ça intéressant, c'est pas seulement le lecteur in fabula de Eco, c'est aussi la réflexion sur la manière dont est perçu un livre par un lecteur qui est forcément différente de l'intention. Et c'est très important pouvoir se dire que l'intention n'est jamais tout à fait perçue. Ça nous permet d'abord de nous libérer de la volonté de l'ascensionnalité et de l'exhaustivité de la description, mais ça nous permet aussi d'être plus fort dans tout processus narratif, puisqu'on sait que de toute façon, ce qu'on veut, c'est qu'une partie de ce qu'on écrit soit compris et pas la totalité.
Et d'ailleurs, les mises en abîme sont nombreuses dans ce livre, dans ce roman, L'Anomalie, chez Gallimard, Hervé Le Tellier, nombreuses, et pourtant vous chutez, vous ne basculez jamais complètement, vous vous raccrochez toujours en suivant le fil que vous avez déployé, en vous raccrochant aussi peut-être aux branches de ces maîtres en littérature que vous affectionnez, à qui vous rendez de nombreux hommages, des clins d'œil dans ce roman d'Italo Calvino que vous venez d'évoquer, à Georges Perec. France Culture, il est midi 18 avec notre invité, l'écrivain romancier Hervé Le Tellier.
Son silence ne me dit rien de bon, ne me dit rien qui vaille. Sans aucune explication, je tourne en rond. Intuitivement, je devine que tous ces non-dits disent non, que dans ces non-dits, tout est dit, que son long silence en dit long. Son silence ne me dit rien de bon, et ouvre grand l'entaille qui devient pure obsession d'abandon. Intuitivement, je pressens que tous ces dénis disent non, que dans ces non-dits, tout est dit, que son long silence en dit long. Ce mur que tu dresses entre nous, c'est tordu, dégueulasse, ça me déçoit, et pour moi, c'est tout vu, l'admiration n'est plus. Officiellement, vraiment et vraiment foutu. Son silence ne me dit rien de bon. Je déguste ma peine jusqu'à l'intoxication. Je touche le fond. Je ressasse jusqu'à la vie. Que tous ces dénis disent non. Que dans ces non-dits, tout est dit. Que son long silence en dit long. Sans aucune explication, je tourne en rond. Intuitivement, je devine que tous ces non-dits disent non, que dans ces non-dits, tout est dit, que son long silence en dit long.
C'était Étienne Dao pour cette grande table culture du lundi, extrait de l'album À venir, le deuxième volume de son diptyque Surf. Ce titre s'appelle Son silence en dit long. Il est midi 20.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Avec notre invité, le romancier Hervé Le Tellier, à l'occasion de son Anomalie, L'Anomalie, son nouveau roman qui paraît chez Gallimard. Hervé Le Tellier, vous avez encore un papou, vous, votre papou dans la tête. On vous a longtemps connu ainsi sur France Culture.
Oui, j'ai un regret de la fin de l'émission, évidemment. François Sressart est parti à la retraite et puis on n'a jamais retrouvé les moyens ni la force collective de proposer tout à fait autre chose. On peut attendre. J'espère qu'un jour sur cette antenne va revenir une émission de cette nature qui était compliquée à faire, donc je comprends que ça prenne du temps.
Mais vous l'avez gardé, votre papou, dans la tête?
J'espère, oui.
Ouais, ce petit grain de folie aussi qui allait avec. Papou un jour, papou toujours, aurait-on tendance à se dire. Vous, l'oulipien, depuis plus de 30 ans, est-ce que c'est un état d'esprit? On va écouter ce qu'en dit Jacques Roubaud, oulipien aussi, écrivain.
J'ai l'habitude de jouer et, disons, le jeu qui est une activité extrêmement répandue de l'animal à l'humain est aussi une activité que l'on peut poursuivre dans la poésie, dans la composition poétique. Mais bien entendu, il y a une interprétation peut-être péjorative des poètes ou des compositeurs de littérature qui jouent, on dit « ce n'est qu'un jeu ». Ce n'est qu'un jeu. Moi, je pense qu'on peut jouer et en même temps, au fond, essayer d'atteindre quelque chose qui dépasse le seul aspect ludique.
Il y a du jeu, on l'imagine aussi dans ce roman, l'Anopalie, Hervé Letellier, c'est-à-dire de la contrainte, qu'il y a des règles que vous vous étiez fixées au départ et que vous avez tenues.
Il y a des règles. Ce que dit Jacques Roubaud est évidemment totalement juste. Il y a deux sortes de jeux. En français, on dit jeu, mais les Anglais ont deux mots. Ils disent game et ils disent play. Le play, c'est le play des cours de récréation. Et le game, c'est le jeu d'échecs, le go, enfin tout ce qui s'apparente finalement à quelque chose de très structuré. Et l'oulipien, je pense, est plutôt dans cet univers de jeu structuré. Alors évidemment, dans un livre comme l'Anomalie, je gomme toutes les structures que je peux avoir utilisées. Il y en a deux qui sont relativement évidentes. La première, c'est évidemment le jeu avec les genres, qui est visible dès le départ, parce que ça commence comme un polar, et qu'il y a 6 pages, premier chapitre, on peut considérer que c'est un pastiche, même si c'est pas tout à fait un pastiche, mais un hommage, disons, à la forme du polar, du livre noir. Et puis ensuite, on passe à un roman psychologique, à un roman sentimental. Le deuxième jeu qui existe, c'est un jeu avec, justement, cette multiplicité de personnages. On peut pas se permettre d'avoir beaucoup de personnages et de perdre le lecteur. Donc il faut des axes extrêmement forts, il faut des arches même extrêmement fortes, et qui sont tirées d'un bout à l'autre du livre. Donc le livre est conçu comme une tresse, si on peut dire, comme une tresse avec des Scooby-Doo, vous savez, dans lesquels j'utilise ce mot pour dire que chacun des personnages peut être lié à une couleur, et toutes ces couleurs se mêlent pour former un petit Scooby-Doo. Ouais. Alors j'ai un personnage qui est un personnage qui est une droite pour moi, qui est le personnage du tueur, qui va du début du roman à la fin du roman et qui passe comme une balle sans interagir avec personne, qui finalement est l'axe central, même si on le voit peu, mais c'est celui qui tient tout le reste. Et puis j'ai Misol, qui est mon personnage qui tourne autour tout au long et qui finalement, lui, est celui qu'on va suivre en permanence et qui va fournir finalement le fil narratif le plus dense.
Alors Victor hésite entre colère et fou rire. Dans l'ignorance du lendemain, l'écrivain veut consigner froidement, en un long catalogue, ce qui se passe dans ce hangar. Hangar est un mot si bizarre, pas loin de hagar, de hasard. Il a sorti son carnet, un stylo, il tente de s'abstraire des cris, du bruit, il prend ses notes, épuisement d'un lieu improbable. Mais non, pourquoi marcher à l'ombre de Pérec? Pourquoi ne s'affranchit-il jamais des influences, des figures tutélaires? Pourquoi, quand il ne craint pas d'être un imposteur, n'est-il qu'un gamin en quête d'adoubement? Posément, il écrit, il inscrit, mode avion. Hervé Letellier, et vous, pourquoi vous ne vous affranchissez jamais de vos influences, de ces figures tutélaires que vous chérissez? Elles vous protègent d'une certaine manière?
Bien sûr, non seulement elles protègent, mais elles constituent. C'est-à-dire que ça serait une illusion de croire que les écrivains ne viennent de nulle part. On vient tous de quelque part. On vient de ce qu'on appelle les influences, mais qui en fait ne sont pas tout à fait des influences. Il y a une phrase que je cite souvent, mais que j'aime vraiment, qui est une phrase de Jean Paulhan, qui dit qu'il n'y a pas de sentiment plus sot en littérature que la peur d'être influencé. Ça, c'est très juste, c'est-à-dire que il est vrai que craindre qu'un auteur majeur nous influence, c'est quand même sot. Je veux dire, si on lit Flaubert et qu'on se dit « mon Dieu, j'ai arrêté de lire Flaubert, c'est trop bien écrit, c'est trop merveilleux », c'est absurde. Donc, c'est une chose à éliminer. Mais la deuxième chose qui, à mon avis, est juste, c'est que les influences sont en fait sont des échos. C'est-à-dire que si ça nous influence, c'est parce que ça trouve écho à quelque chose qui est fondamental en nous, qui est exact, qui est précis, et qui est finalement ce qui, en tant qu'auteur, nous constitue sans même qu'on le sache. Et donc si moi j'aime Gary, si moi j'aime Pérec, si moi j'aime Desnos, si j'aime Flaubert, si j'aime Faulkner, c'est pas seulement parce que ces auteurs, je les ai lus et ils m'ont influencé, c'est aussi parce que ce sont ceux qui, lorsque je les ai lus, je les ai lus jusqu'au bout. Alors que j'en ai abandonné d'autres. On a cité Musil. Je suis pas un grand fanatique de Musil et de L'homme sans qualité. Je l'ai lu, mais un peu parce que c'était une sorte de nécessité de le lire. Alors que d'autres, je les ai lus avec un enthousiasme, avec une sorte de ferveur. Nabokov, donc Gogol, et donc ces auteurs-là, ils ont effectivement une influence sur nous, mais c'est parce que ça fait écho. Et c'est cet écho en nous qu'il faut respecter, parce que c'est ce qui nous est. Enfin, c'est pour ça qu'on écrit. Donc voilà, c'est une vision. Effectivement, je fais dire à Misol, qui déteste se sentir sous l'influence et être un petit garçon par rapport à ses figures tutélaires, mais c'est pas grave au fond. C'est pas un handicap pour l'écriture d'avoir des figures tutélaires. Au contraire, ça peut vraiment non pas être une aide, mais être une colline à partir de laquelle on regarde son propre travail. Quand j'ai écrit un livre il y a aussi très longtemps, je passais mon temps à relire Antonio Lobontunes. Parce que j'adore Antonio Bontunes. Et en le lisant, je rentrais dans une atmosphère lusitanienne qui me permettait d'écrire un livre qui parlait du Portugal. Il y avait cette saudade, il y avait cette ambiance que j'aimais et qui me permettait d'avancer. Je lisais Pessoa en même temps, j'avais ces deux livres à côté l'un de l'autre, et ces deux auteurs, et ça me permettait de travailler.
Et du haut de votre colline, vous voulez saluer ces écrivains qui vous sont chers, traduits en 20 langues déjà, en lice pour 4 grands prix, L'Anomalie, le roman, est en plus construit comme une série. Vous avez déjà signé pour l'adapter ?
J'ai signé pour une option, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que deux producteurs se sont montrés intéressés assez tôt et j'ai accepté que, évidemment, ils prennent une option sur la série. Je n'avais pas réfléchi à cette idée de l'adaptation dès le départ de l'écriture, mais je reconnais que les romans du 19e sont déjà des séries. Pour moi, la comédie humaine, c'est Balzac qui crée une série sans le savoir. La cousine bête, saison 2. Oui. Père Goriot, saison 3. Enfin, j'en sais rien, mais c'est un peu cette idée quand même de la multiplicité des personnages très incarnés, qui est finalement une forme qu'on retrouve aujourd'hui dans la série. Au fond, le film calibré de 1h30 était court.
Et au fond aussi, pour Victor, votre écrivain du roman, vous avez déjà fait le casting puisqu'il il ressemble à pas mal d'acteurs américains. Donc il va falloir ouvrir assez largement à l'international pour cette série si jamais vous décidez d'aller jusqu'au bout. Vous passez du roman d'amour au récit épistolaire, du polar au récit autobiographique, des essais à la poésie depuis toujours. Hervé Le Tellier, avec ce roman, on a le sentiment que vous aviez envie de réunir tous les genres pour en faire un grand roman populaire, un roman tendance SF qui débarque en plus dans la fameuse collection blanche de Gallimard. Voilà, c'est votre entrée. Là, on espère que ce choix, ce nouveau chemin, ce parti pris vous réussira. Merci beaucoup à vous, Hervé Letellier, d'être venu ouvrir cette semaine de Grande Table avec nous. On croise les doigts pour la suite. L'Anomalie, votre roman, paraît chez Gallimard.
Merci.